Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour un tour de l'île rouge avec leurs deux enfants. Ce périple a duré 4 ans. Ils présenteront leur film suivi d'une rencontre sur l'île Dieu le mardi 26 avril à 20h au Casino. Dans le cadre d'un lieu, une rencontre organisée par l'association Une île des auteurs. Bonjour Alexandre Poussin.
Bonjour.
La destination de Madagascar, est-ce un choix familial ?
C'est une bonne question. C'est la première fois qu'on me la pose. C'est pas familial, je dirais que c'est plus collégial. C'est pas les enfants qui ont décidé, non. C'est pas parce qu'ils avaient vu le dessin animé Madagascar.
Ça n'a rien à voir.
Qu'ils ont eu envie d'aller à Madagascar. Non, dans notre vie, ça a été une succession de signes, de rencontres, de hasards, de coïncidences. Enfin, on met le curseur où on veut, hein, qu'on soit croyant ou non. Et qui nous ont fait converger nos regards vers cette île. Mais effectivement, les enfants en sont la raison principale, puisque... La francophonie a vraiment présidé à notre choix. On voulait pas que nos enfants soient culturellement et linguistiquement isolés. Vous me direz, on aurait pu aller dans un autre pays francophone. Mais ce qui m'intéressait à Madagascar, et qui nous intéressait, c'était l'insularité. Et donc les habitants de l'île-dieu seront sensibles à ça, je crois. Et tout l'endémisme. L'endémisme, c'est tous les animaux qui n'existent que là, et toutes les espèces végétales ou animales qui n'existent que là, qui font de Madagascar une sorte de sanctuaire isolé du monde, où il y a des espèces animales uniques, des caméléons, des lémuriens, des baobabs, des palmiers, et toute une sorte de toute une foultitude d'espèces qui sont fascinantes et qui sont en péril. Et donc on voulait aller les voir avant qu'elles ne disparaissent, ou aller voir des gens qui luttent contre leur disparition.
Le but de ce voyage, c'est faire connaître à vos enfants de nouveaux horizons et de nouvelles cultures, non ?
La première raison, elle est effectivement d'avoir une expérience de vie de famille à un âge où les enfants sont encore, proches du poule et du coq. Hein, les petits poussins, ils gravitent autour des parents. Après, ils deviennent grands, ils deviennent ados, puis ils prennent leur envol, c'est évident. Donc là, on savait que c'était un temps privilégié. Ils avaient 6 ans et 9 ans quand on est parti. Là, on savait qu'on avait du temps devant nous pour vivre quelque chose de très fort ensemble, qui serait un socle sur notre vie familiale future, parce qu'après, les enfants, leur destin, c'est de nous échapper. Donc là, on voulait leur faire l'école, on voulait leur apprendre la vie, le monde, la fragilité du monde, la beauté du monde, toutes choses qu'on peut faire à l'école, en remettant nos enfants entre les mains de professionnels, qui s'appellent des professeurs et des maîtres. Mais là, on voulait être co-créateurs de leur éducation et participer à cette éducation, et faire en sorte que l'aventure soit l'école de la vie. Alors Philae et Ulysse, oui, évidemment, ils ont été très touchés tout de suite par les autres fonctionnements de cette société, qui est très traditionnelle, très agricole, très rurale, très enclavée, parce qu'on a utilisé la charrette malgache, qui est un moyen de transport traditionnel.
J'allais vous poser la question, pourquoi pas avoir utilisé une voiture ?
Ah ben parce que ça n'aurait pas été possible, il n'y a pas assez de routes carrossables à Madagascar. Il y a quelques routes qu'on peut emprunter, évidemment, et que les touristes empruntent, mais dès qu'on veut aller par des chemins de traverse, il n'y a plus que des pistes très très défoncées qui ne peuvent s'arpenter qu'à pied, à bicyclette, à moto ou en charrette. Donc on voulait pas faire un raid moto, on voulait pas faire un raid vélo, on voulait s'inculturer, on voulait adopter le mode de communication dans les campagnes que les paysans malgaches ont, c'est cette charrette qui vient de France hein, à l'origine, mais là-bas, cette charrette, c'est devenu la sprette. La sprette, il y en malgache, il y en a partout, ils les fabriquent, là où nous, on ne sait plus le faire, évidemment, on a perdu ce savoir-faire, il doit y avoir 5 ou 6 charrons en France, à Madagascar, il y en a un dans chaque village, et c'est le moyen, c'est le tombereau, c'est ce qui sert à tous, il y en avait plein à l'île-dieu, il y a encore 50 ans, pour aller rechercher le varech, le goémon, pour transporter les pommes de terre, pour aller à droite à gauche sur l'île-dieu, il y avait encore des charrettes. Et donc c'est extraordinaire une charrette, c'est un tombereau en fait, on met tout ce qu'on veut, on met l'équivalent d'un coffre de voiture à l'intérieur, donc les enfants pouvaient s'y réfugier s'il pleuvait, s'il faisait trop chaud, etc., parce qu'on y avait mis un toit et une capote. Et donc, ils pouvaient aussi s'isoler s'il y avait des grandes foules. Parfois, on déclenchait des frénésies culturelles avec des foules énormes. Et donc, parfois, ils voulaient s'isoler pour être un peu plus dans l'intimité. Et puis, ils pouvaient y piquer un roupillon. Enfin, voilà, on dormait pas dans la charrette. On avait une tente, on campait. Et la charrette, c'était surtout pour le matériel et les enfants, s'ils voulaient.
Une charrette tirée par des zébus, on l'a bien compris, durant 4975 kilomètres tout de même.
Eh oui, presque 5000. C'est grand, Madagascar. D'ailleurs... Chaque habitant de l'île Dieu sait que faire le tour de l'île Dieu, c'est long. Hein, ça a beau être une petite île jetée dans l'océan, ça reste long. Eh bien, Madagascar, vous pouvez multiplier ça à exponentielle XXL. On croit que c'est une île petite, mais en fait, c'est immense. C'est un continent. C'est une île immense. On a mis 4 ans à en faire le tour à pied avec cette charrette. Alors, il faut dire qu'aussi, on a choisi la difficulté. Hein. Les pistes, il n'y en avait pas sur les côtes. Des ponts, il n'y en avait pas. Des bacs, il n'y en avait pas. Il fallait toujours se débrouiller pour faire traverser notre charrette en la faisant flotter, en lui mettant une voile, en la tractant avec des pirogues, en faisant nager des aigus. Enfin, c'était de l'aventure épique.
Et en plus, vous avez fabriqué votre propre charrette.
Oui, on a passé quelques mois à Tana au début pour fabriquer nous-mêmes notre charrette parce qu'on la voulait plus légère, plus moderne, avec des panneaux solaires, des suspensions, des choses plus propices à notre expédition. Parce que la charrette malgache traditionnelle, elle est très lourde et sur les côtes, elle s'enfonce. Elle se serait enfoncée dans le sable et dans la boue, etc. Donc on a fait des roues plus larges qui ont surnagé sur le sable et qui ne sont pas enfoncées dans la boue. J'ai inventé un système de bandage en pneus de caoutchouc. Enfin voilà, ça a été propice ce temps-là à Tana pour tourner nos premiers sujets et pour apprendre des rudiments de la langue. On s'est perfectionné en cours de voyage et pour comprendre la complexité, la subtilité de cette culture, de ce pays.
Une aventure familiale, mais avec beaucoup de rencontres également.
Oui, ben c'était le but. C'était de rencontrer des missions, des ONG, des bonnes sœurs, des paumées en pleine brousse qui essaient d'éduquer, de soigner, de former toutes ces populations qui sont largement abandonnées par le pouvoir central. Donc ces gens-là, ils sont en mode survie. Et donc c'était intéressant de voir ces personnalités extraordinaires qui essaient de maintenir en vie ces communautés, de protéger les forêts, de protéger les ressources, de créer des écoles, des dispensaires, des missions humanitaires, des missions médicales à laquelle on s'est joint. Et on a filmé tout ça. Hein. C'est notre métier. On est documentariste, on est réalisateur de films. Et c'est un de ces films-là qu'on vient présenter au public de Lisieux.
Le mardi 26 avril à 20h au casino. Un aspect humanitaire, car les habitants de Madagascar, s'ils ne travaillent pas 7 jours sur 7, ils n'ont pas d'argent, c'est bien ça?
C'est ça, ils sont vraiment très dépendants. Ils n'ont ni salaire, ni chômage, ni services sociaux, ni quoi que ce soit. Donc s'ils ne travaillent pas, ils meurent de faim. Donc c'est un des 4 pays les plus pauvres du monde. Et les Mayas sont pourtant très très travailleurs. Hein. Ils sont tous les jours sur le pont, du matin jusqu'au soir, à pêcher ou alors à la bêche. Vous savez, ils retournent un champ à la bêche. Qui fait ça de nos jours? C'est juste, il n'y a que les Malgaches qui font ça. Il n'y a aucune mécanisation. Ils sont d'un courage physique et d'une obstination morale extraordinaire. On a pris des leçons tous les jours de résilience et de courage.
Le retour à la vie plus classique en France pour vous et vos enfants a-t-elle été simple ou compliquée?
Je dirais plutôt simple. Hein. C'est le bonheur, le confort.
Ouais, le confort, quoi.
L'hôpital, l'école, les services publics, l'électricité, l'eau, c'est que du bonheur. On se rend compte à quel point que c'est pas un dû, que c'est un luxe, que c'est fragile, que notre société est fragile et qu'elle va pas bien. On s'en rend compte aussi quand on revient d'un pays du tiers-monde tout cassé. On voit les dégâts qui s'opèrent chez nous, la fracture sociale, c'est quelque chose qui est criant. Alors, tant que ça marche, on bénéficie, on est content et on en profite et on contribue. Hein, on est ravi de payer des impôts quand on revient en France parce qu'on voit à quoi ils servent.
Alexandre Poussin, pour vos enfants, on l'a bien compris, ce voyage fut une leçon de vie. Sont-ils prêts à repartir?
Alors, la dernière fois, on en a parlé. Moi, je pensais que la page était tournée et que maintenant ils avaient leur vie. Et j'ai dit, bon, ben, la prochaine fois je vais à Madagascar, j'y vais tout seul pour faire ci, faire ça, et lever de bouclier. Non, pas question, on sera de la partie, évidemment, parce que c'est leur jeunesse idéalisée, c'est là qu'ils ont grandi. Ulysse n'a pas de souvenir avant Madagascar, et c'est un tiers de sa vie, dit-il. Donc c'est important, et on y retournera, c'est évident. Notre charrette nous attend, nos aigus nous attendent, ils sont encore vivants. On attend que toutes les restrictions sanitaires et de voyage se lèvent pour qu'on puisse retourner voyager avec des touristes, avec notre charrette, pour leur montrer les trésors de Limerne. Limerne, c'est la région qui est autour de Tana.
Est-ce que vous avez toujours des contacts avec des habitants de Madagascar?
Oui, on est toujours très en lien avec plusieurs missions, avec des bonnes sœurs. On finance toujours, là en ce moment, un programme de renutrition dans le sud du pays où il y a un kéré, une famine épouvantable où des milliers de gens sont en situation critique. On a déjà levé et distribué 83 000 euros de Kuba Aina, qui est une pâte nutritionnelle. J'ai levé aussi auprès d'une fondation suisse 50 000 euros pour un projet apicole dans le Grand Sud, pour fournir à la fois un revenu et une protection des forêts, parce que si on met des ruches dans les forêts, ben elles sont protégées par les apiculteurs. Ça devient des supplétifs aux gardes forestiers, parce que les forêts sont très attaquées par les charbonniers. Donc on a toujours des projets comme ça qui nous lient à ce pays, en fait, pour toujours, je crois.
On peut suivre ces projets et votre aventure sur madatrek.com.
Oui, madatrek.com, il y a toute une liste des 33 projets qu'on a financés à hauteur de 400 000 euros pour un total. Donc c'était ce qu'on faisait simultanément, tout en marchant, tout en filmant. Depuis notre charrette, on levait des fonds auprès des Français qui ont été extraordinairement généreux. Les Français aiment Madagascar et sont extraordinairement solidaires et altruistes. Et ça, on l'a découvert en marchant. C'était merveilleux, une bonne nouvelle pour nous.
Est-ce que vous avez eu des moments de stress durant ce voyage?
Ben oui, évidemment.
Beaucoup?
Surtout quand on a été menacé par des bandits. Il y a des bandits quand même de grand chemin à Madagascar qui volent des zébus. Et on était les seuls touristes de l'histoire malgache à avoir des zébus. Et donc ça nous mettait comme en difficulté. Et donc on en a rencontré trois fois, il a fallu négocier trois fois. Et à chaque fois qu'on s'en sort, les jambes flageolantes et en tremblant, de sueur froide, on se dit « mais mon Dieu, c'est pas notre place, on a exposé nos enfants à ces risques, c'est vraiment, vraiment insensé ». Et puis après, quand on est de retour en France et qu'on est sur l'autoroute dans un bolide qui est une bombe humaine roulante, on se dit « bah oui, chaque fois qu'on prend la voiture, on expose aussi nos enfants à des dangers ». Voilà, à chaque pays, c'est danger. Et bon, il suffit de vivre les choses prudemment, lentement, écouter les conseils des gens et respecter toutes les lois, tous les fads. Les fads, c'est les tabous, les interdits à Madagascar. Et ça reste un pays très, très safe, quoi. Très, pas du tout dangereux comme on imagine qu'il est. Parce que de temps en temps, chaque année, il y a un fait divers qui défraie la chronique.
Vous nous avez dit que vous allez repartir à Madagascar, mais quand? Est-ce que vous avez une date avec vos enfants?
J'ai pas de date. J'attends l'ouverture là du pays et Nomade Aventure avec lequel on va programmer ces petits voyages qui dureront 15 jours, 20 jours. Et donc là, ça sera l'occasion d'y retourner. Sinon, j'y retournerai pour mon propre plaisir. J'ai envie d'aller faire du kite là-bas. Il y a un endroit qui s'appelle Baba Ombi à Diego Suarez, qui est la mecque du kite, qui est absolument le paradisiaque. J'ai des amis partout à Madagascar, donc je peux y retourner et retourner y vivre 4 ans en faisant la tournée des Grands Ducs. C'est merveilleux, ça.
Alexandre Poussin, merci de nous avoir fait voyager et on vous retrouve sur l'île-Dieu le mardi 26 avril à 20h au casino dans le cadre d'un lieu, une rencontre organisée par l'association Une île des auteurs. Participation adulte 8 euros, enfant 5 euros. D'ailleurs, vous venez en famille?
Oui, on vient en famille et puis c'est pour nous, ce sera des retrouvailles parce que on y a passé, les enfants y ont passé leurs premières années. Tous les étés, on était très très assidus à l'île-Dieu et passionnés, on adore l'île-Dieu. Et puis là, il y a eu Madagascar, il y a eu un trou, et puis il y a eu le Covid. Donc ça fait 8-10 ans qu'on n'y est pas retourné. Ça sera un grand retour pour nous. On est très heureux.
Merci Alexandre Poussin. On retrouve votre aventure sur madatrek.com. À très bientôt.
Merci, au revoir.